France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Début janvier, sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, on a découvert les peintures rupestres les plus anciennes connues à ce jour, des œuvres datées de 67 800 ans. Quelles sont les implications d'une telle trouvaille ? Depuis 2014, on sait que Sulawesi est une région archéologique majeure. Mais cette nouvelle découverte fait de ce site le plus ancien foyer d'art rupestre au monde. On y voit des mains négatives, c'est-à-dire obtenues en pochoir, avec un mélange d'eau et d'ocre pulvérisé sur une paume. Ce qui est d'émouvant avec ces empreintes, c'est qu'elles nous mettent en contact direct avec le geste d'un artiste, son action et les traces d'un souffle vieux de plusieurs milliers d'années. On ne pourra jamais se glisser dans la tête de ces humains du paléolithique, mais quel sens donner à ces images ? Sulawesi, l'art pariétal se fait la main. Et Hermine Hoffler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et nous sommes en ligne avec Éric Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous également d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Et puis merci à ceux également qui nous rejoignent sur Blue Sky sur notre compte @sciencecqfd. Alors quelle est la technique utilisée par les artistes indonésiens de cette époque ? Quelle est la technique de datation utilisée par les chercheurs d'aujourd'hui ? Et que nous apprennent ces peintures sur la route migratoire en Océanie ? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, avant l'Indonésie, l'Europe, eh bien, Hermine Hoffler, que savons-nous de la rupestre de cette époque paléolithique ? Puisque les premiers foyers, c'est d'abord ici en Europe qu'on les a découverts.
Historiquement, oui, en effet. Donc c'est Altamira au 19e siècle qui est le premier site qui a été considéré comme étant comme présentant des peintures de bisons qui seraient l'œuvre donc d'hommes préhistoriques, de femmes préhistoriques. Et il a quand même fallu pas mal de temps pour que ce soit accepté. Et donc en fait, finalement, de découverte en découverte, tout notre modèle de compréhension de l'art préhistorique s'est vraiment conceptualisé en Europe et pendant les derniers 10-15 ans, l'Asie du Sud-Est en fait surgit avec justement d'autres exemples, d'autres peintures qui sont parfois même plus anciennes qu'en Europe.
C'est ça, c'est parce que pendant longtemps, Éric Robert, on a considéré que l'art pariétal et rupestre avait émergé en Europe avec l'arrivée d'Homo sapiens, c'est-à-dire vers moins 40 000 ans.
Exactement. Ça a été en fait le paradigme qui a vécu pendant une bonne partie du XXe siècle. Alors comme le disait Hermine, c'est lié à la fois à l'historique des recherches, au fait que la science préhistorique s'est beaucoup développée sur l'Europe de l'Ouest et notamment en France avec de nombreuses découvertes, mais également par exemple en Espagne, comme l'évoquait Hermine avec la grotte d'Altamira, et puis avec de nombreux sites qui ont été très fameux, comme la grotte de Lascaux en 1940, et aussi une série de sites dans les années 90 absolument exceptionnels, comme Chauvet, Cosquer, au Cussac en France, Lagarma en Espagne, Foch-Coa au Portugal, qui ont petit à petit comme ça rempli la carte et complété avec des découvertes dont les plus anciennes effectivement remontaient jusqu'à à peu près 40 000 ans. Et donc cette dynamique de recherche, elle s'est faite essentiellement en Europe, sans imaginer pendant très longtemps qu'il puisse y avoir finalement une ancienneté aussi et même plus importante ailleurs que sur le continent européen, où on l'associait avec l'arrivée de ces groupes de sapiens sortis d'Afrique et donc dont les migrations remontaient à peu près à ce moment-là pour l'occupation du continent européen à en gros entre 45 et 50 000 ans.
Alors qu'est-ce qui nous a permis comme ça, Hermine Hoffler, de casser cette vision un peu eurocentriste de l'art pariétal ?
Alors ce sont vraiment, je pense, les travaux des chercheurs indonésiens, dont Adis Oktavianak, qui est le premier auteur de l'étude qui nous amène à avoir cette émission aujourd'hui, et les travaux d'Australiens comme Maxime Aubert, Adam Broome, qui ont entrepris vraiment tout un travail de datation de peintures sur l'île de Bornéo, sur l'île de Sulawesi, et puis la recherche également de nouveaux sites, de nouvelles peintures. Je pense que c'est important aussi de mentionner les travaux de Chazine, donc un chercheur français, qui avant eux avait parcouru Bornéo avec le photographe Monsieur Fage pour justement repérer des peintures pariétales et les documenter. Et en fait, c'est vraiment cette nouvelle équipe indonésienne-australienne qui a entrepris un grand travail de datation. Et en fait, presque chaque année, on a un scoop avec, par exemple, l'année dernière, la plus ancienne scène de l'humanité, dont on parlera peut-être.
Éric Robert, en effet, on a commencé à s'intéresser à d'autres contextes géographiques dans le monde entier depuis très longtemps, mais l'Indonésie, ça marque un tournant depuis une dizaine d'années.
Oui, ça marque un tournant, évidemment, par rapport aux dates, parce que on a prospecté à travers la planète. Il y a des grandes explorations qui se sont faites, évidemment, sur l'Afrique, sur l'Asie, avec la découverte d'art rupestre absolument exceptionnel et qui ont été à l'époque valorisées dans le cadre d'expéditions, par exemple, par Léo Frobenius. Ou par Henri Lotz, qui ont fait des relevés, qui ont été ensuite partagés et communiqués dans le cadre de grandes expositions. Mais à ce moment-là, on n'imaginait pas, et on ne les attribuait pas pour l'essentiel, à des périodes aussi anciennes que celles qui sont connues en Europe. Ce qui a changé, en fait, c'est effectivement le fait de commencer à se dire qu'il pouvait y avoir, à travers les connaissances en préhistoire, globalement, toutes ces routes migratoires, de ces sorties d'Afrique multiples, de ces circuits de migration des populations humaines, et notamment de Homo sapiens, peut-être des possibilités qu'il puisse y avoir autre chose ailleurs que ce que l'on connaissait en Europe. Et effectivement, on en reparlera certainement, l'application de ces techniques de datation, de ces possibilités de datation indirecte sur ces peintures, parce que de l'art rupestre, il y en avait en Indonésie, et il y en a d'ailleurs en grande quantité de différentes époques, mais c'est cet art le plus ancien aujourd'hui connu qui a réellement émergé à la faveur à la fois de nouvelles prospections et puis de l'application de ces méthodes de datation qui sont assez récentes sur les peintures préhistoriques en tout cas.
Cet art le plus ancien, en effet, il apparaît dans cette étude parue dans Nature en janvier 2026. Que voit-on ? Écoutez.
Ici, on voit une empreinte de main droite. On voit la pulvérisation. Et puis, en cherchant, j'ai trouvé au plafond, sous les représentations de poulets, trois autres empreintes de petite taille. Ici, ici et juste là.
On a deux mains en négatif, ils sont très très durs à voir. Il y en a une à droite qui est très très pâle, un rouge très très pâle. À gauche, est un peu plus foncé. Et la main en négatif à droite, on a pu le dater et on a obtenu un âge minimum de 67 800. Donc c'est la plus vieille peinture connue de l'humanité. Elle est ici, sur l'île de Muna, à Sulawesi.
67 800 ans. Ces doigts presque effacés de Metanduno réécrivent l'histoire culturelle de Sapiens. Ils prouvent que notre espèce a très probablement acquis la capacité de produire des images et des récits longtemps avant son arrivée en Europe, il y a 45 000 ans, mais aussi avant son arrivée à Sulawesi. Il avait sans doute cette capacité avant sa sortie d'Afrique, il y a 70 000 ans.
Voilà, le documentaire sur Arte Sulawesi, l'île des premières images, en janvier 2026. Hermine Hoffler, on entendait là dans cette archive parler de notre espèce, mais est-on sûr qu'il s'agisse d'Homo sapiens, c'est pas d'un autre hominidé?
C'est une excellente question, parce qu'effectivement, dans la région, en fait, on sait que Homo erectus a vécu en Indonésie. Récemment également, la présence d'outils en pierre à Sulawesi a été rapportée comme datant de 1 million d'années. Donc on sait qu'il y avait des hominidés, probablement Homo erectus, mais on ne sait pas, on n'a pas trouvé d'ossements. Et puis, dans la région, il y a également deux espèces endémiques. Donc une sur l'île de Flores, Homo floresiensis, et une sur l'île de Luzon aux Philippines, Homo luzonensis. On a affaire à une chronologie un petit peu plus ancienne quand même que 67 000 ans. Donc on peut penser qu'il s'agit potentiellement d'Homo sapiens, parce qu'on sait qu'Homo sapiens était présent en Asie du Sud-Est, notamment au Laos, également sur l'île de Sumatra en Indonésie également. Déjà avant 67 000 ans. Et puis, je pense qu'on va parler de l'Australie avec potentiellement une arrivée qui correspondrait aux datations de ces peintures, de cette main négative, en fait, à Sulawesi.
Tout à fait. Éric Robert, vous aussi sur cette question de cette espèce Homo sapiens qui serait donc l'auteur de ces œuvres.
Oui, c'est pour l'instant, Hermine le disait très bien, en fait, ce qui nous permet de nous raccorder. Alors, évidemment, c'est à la fois tout ce que l'on connaît déjà en termes de production d'art pariétal ou rupestre, c'est-à-dire de production d'images, finalement, notamment de représentations figuratives. Elles sont toujours associées à Homo sapiens. C'est le cas notamment, par exemple, en Europe, puisqu'on n'a pas de représentation donc d'animaux, d'humains, au-delà de 40 000 ans, au-delà des moments où seul sapiens s'est véritablement implanté dans les territoires. On va retrouver ces images. Et il en est un peu de même sur les différentes évidences qui ont été proposées, identifiées aujourd'hui à Sulawesi. Alors, est-ce qu'il faut imaginer qu'un jour on puisse avoir une adéquation avec d'autres espèces que la nôtre et des images et des représentations? On en a eu quand même pour l'instant aucun exemple, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres capacités, on va dire d'ordre symbolique, d'autres productions même graphiques, hein, mais elles sont identiques ou géométriques et non pas figuratives telles qu'on les a ici. Et donc, ça reste toujours nos ancêtres, ces groupes de sapiens qui sont à l'origine, mais voilà, une origine qui a tendance à remonter de plus en plus dans le temps et d'ailleurs à questionner la chronologie de cette émergence. Est-ce liée au moment de la sortie de l'une des grandes sorties d'Afrique autour de 70 000 ans, ou serait-ce plus ancien comme l'imaginent certains des auteurs? Là, ça reste vraiment une question très brûlante d'actualité aujourd'hui.
Et ça reviendra en effet sur cette question du berceau de l'art également. Mais pour rester là sur cette région, sur même l'Indonésie, à Sulawesi, depuis 2014, on a une série de publications par cette même équipe qui permet de mettre en évidence ce foyer très ancien d'art pariétal. Mais alors pourquoi autant de sites d'art rupestre dans cette région? On est quand même dans un climat chaud ou dans des conditions de conservation qui sont assez peu favorables, Hermine Hoffler. Est-ce que c'est parce que on a enclenché une logique de recherche qui fait qu'on...
Je pense. Personnellement, je pense oui qu'il y a énormément de travail de prospection qui a été mené ces dernières années, donc à Sulawesi, à Bornéo, avec mes collègues. Du National Museum et de l'Université des Philippines, nous travaillons un tout petit peu plus haut sur l'île de Palawan. Je suis persuadée qu'un jour, on va trouver aussi des peintures pariétales, en fait, qui, peut-être aussi anciennes, puisqu'on sait que cette île a été également occupée il y a 50 000 ans par Homo sapiens. Et c'est la même chose pour finalement... beaucoup de régions environnantes. Peut-être qu'on parlera, on va parler de la colonisation de l'Australie, également de la Papouasie, puisque les deux étaient liés pendant les périodes glaciaires. Il y a actuellement des travaux très intéressants menés par Dylan Gaffney de l'Université d'Oxford, tout à fait à l'ouest de la Papouasie. Et là, il a trouvé un site dans les Raja Ampat qui date de 50 000 ans. Ça a été publié. Il y aurait potentiellement des peintures également, mais ça demande tout un travail de prospection et puis de datation aussi pour vraiment savoir quel est l'âge de ces peintures.
Ah, ces fameuses techniques, oui, on y arrive dans quelques instants. Mais d'abord, Éric Robert, cette prolifération de sites découverts à Sulawesi, comment on l'explique?
Il y a effectivement l'aspect prospection qui est très importante. Et puis, il y a un facteur, je pense, qui est tout à fait favorable. C'est qu'on est dans un univers de grottes, un univers souterrain. Et ça, je pense que c'est pas non plus un hasard si on arrive à pouvoir dater. Alors, d'abord, parce que ça a un impact, on en reparlera, sur la méthode de datation même qui a été employée. Et puis, je pense, même si ces peintures, et je crois que Adi Agus le décrivait, elles sont difficilement lisibles. On le perçoit d'ailleurs assez bien sur la documentation qui est donnée, mais malgré tout, s'il y a un facteur qui permet leur préservation de façon plus favorable, c'est justement cet univers souterrain, un univers de grottes, qui peut permettre un climat potentiellement un peu homogène. Alors, même si les grottes, de ce que j'en ai vu et découvert, parce que j'ai pas eu l'occasion et la chance de pouvoir visiter ces sites, mais sont pas forcément tout à fait dans la même configuration que celle qu'on peut connaître en Europe, néanmoins, ce contexte souterrain peut offrir le climat ou le milieu le plus favorable à la préservation par rapport à des sites qui sont plutôt d'abri ou de plein air, qu'on peut connaître justement sur d'autres contextes, notamment en Australie, comme l'évoquait Hermine, et qui peuvent être malheureusement moins favorables à la préservation, notamment à la préservation des peintures, surtout sur des durées maintenant aussi longues, c'est-à-dire en plusieurs dizaines de milliers d'années.
C'est ce qui expliquerait, Éric Robert, que par exemple à Java et à Sumatra, on n'a pas de peinture pariétale de la même période, alors que l'île de Java a aussi été explorée.
Oui, je pense que c'est vraiment, il y a des éléments qui sont en termes encore une fois de contexte et de milieu qui peuvent jouer sur cette dimension. On évoquait alors je fais un petit saut, mais par rapport à ces questions en Afrique, il y a des programmes de recherche, par exemple, qui se questionnent sur l'absence d'un rupestre dans des régions, d'un rupestre ancien dans des régions qui sont pourtant très connues et occupées anciennement, et qui évaluent un certain nombre d'impacts sur des phénomènes naturels, climatiques, notamment même sur les phénomènes de la présence de la mer et du sel marin à proximité, qui est susceptible d'attaquer les parois de plein air, qui seraient les seules à même de pouvoir accueillir à ce moment-là des peintures ou des gravures. Et donc, il faut qu'il y ait ce contexte un peu à minimum favorable, on va dire, pour garantir cette préservation. Et ça, je pense que c'est un facteur important, avec en plus, effectivement, le travail, encore une fois, de prospection très régulier, soutenu des équipes indonésiennes qui se font depuis une dizaine d'années. Il avait un peu annoncé ces dernières années en disant, mais en fait, il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir. Et c'est ce qu'il continue de faire, c'est ce qu'il continue de pouvoir dater, de pouvoir serrer par rapport à des peintures plus récentes. Et c'est vraiment tout le caractère remarquable de ses recherches.
Et on va continuer de se pencher sur ses œuvres et ses recherches. Comment interpréter ses productions artistiques? On arrive sur cette épineuse question.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Éric Robert et Hermine Hoffler, nous parlons du plus ancien témoignage d'art figuratif attribué à Homo sapiens et découvert à Sulawesi en Indonésie. Des œuvres datées de 67 800 ans qui fait ainsi reculer la date des plus anciennes traces d'art. Alors ces traces d'art, Hermine Hoffler, que dessinaient justement ces humains en l'Indonésie de cette époque? Comment obtenaient-ils ces images? C'est la technique de la main en égale.
Oui, la main en négatif. Donc ici, on ne parle pas de dessin ou de peinture d'animaux, de représentation d'animaux, comme on en trouve dans des sites de Sulawesi un tout petit peu plus récents. Mais ce sont bien des mains, en fait, qui ont été peintes au pochoir, avec la technique du pochoir. Donc la main était appliquée contre la paroi. Et puis, il y avait pulvérisation de matière colorante. Et dans ce cas-ci, potentiellement, un mouvement des doigts ou une altération de la forme des mains. Mais donc, c'est vraiment la main d'un individu, en fait, qui a été fixée sur la paroi il y a presque 68 000 ans.
Et ça, c'est, comme je disais dans mon introduction, je trouve ça toujours très émouvant. Gros débat, Éric Robert, est-ce qu'une main négative, c'est de l'art figuratif?
Alors voilà effectivement une bonne question. Alors moi j'aurais tendance à l'associer avec, c'est pas forcément le cas de tout le monde, elles sont parfois considérées ces mains négatives plutôt que dans ce qu'on appelle les signes, alors qu'il y a une catégorie très large qui désigne plutôt des formes géométriques, simples ou élaborées, et parfois on les associe avec. Mais il s'agit quand même d'abord d'une représentation du corps humain, et on sait que les représentations humaines pour les contextes préhistoriques anciens, elles sont généralement plutôt rares, déjà plus rares que les animaux par exemple. C'est notamment beaucoup le cas en Europe, mais ça a l'air d'être un peu le cas également sur les représentations qui ont été découvertes à Sulawesi. Et puis, donc elles sont souvent, ces représentations humaines, un peu partielles, et la main négative en fait partie. Et si on doit prendre, encore une fois, pardon de cette référence, mais avec les contextes européens qu'on connaît le mieux, eh bien ces mains, on les voit émerger en même temps que les animaux. Donc elles sont un peu dans cet univers-là. Ce qu'interroge effectivement cette découverte et cette datation qui est 15 000 ans plus ancienne que les plus anciennes dates obtenues sur les sites voisins de Sulawesi, c'est de savoir si finalement les mains négatives ont été les premières œuvres figuratives avant d'aller faire les animaux. Est-ce qu'il y avait un écart de temps ou est-ce qu'elles pourraient être finalement contemporaines et que c'est juste une question de temps avant que, eh bien, notamment nos collègues ne puissent faire de nouvelles datations et ne puissent faire remonter aussi les plus anciennes peintures d'animaux de la faune locale dans des horizons un peu voisins. Ça fait partie de cette grande question de se dire finalement est-ce qu'il y a eu quand même à un moment donné un geste, une démarche de vouloir commencer par apposer cette main, pour avoir ce contact, cette trace, cette empreinte finalement qui est laissée par les populations humaines sur la paroi, sur une paroi de façon pérenne, avant d'aller y représenter, y figurer autre chose, et notamment les animaux qui leur étaient immédiatement voisins.
Je voulais dire, Hermine Offlat, que tout ça, ça pose aussi la question, ça questionne la chronologie des images. Est-ce qu'on a des mains négatives avant des représentations d'animaux ou est-ce un hasard, oui, justement, des recherches archéologiques, enfin...
Oui, donc comme Eric Robert le signalait, peut-être, en fait, c'est une recherche qui est très active, hein, c'est très dynamique, donc peut-être que dans 2 ans, on va pouvoir dater certaines représentations d'animaux qui finalement seront plus anciennes que ces mains ou contemporaines. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que donc il y a une main qui est plus ancienne que les animaux qui ont été représentés par la suite sur la mamie à Sulawesi. Je vais quand même en dire 2 mots parce qu'elles sont particulièrement remarquables, je pense. Donc, on a affaire non seulement à des animaux, mais à des scènes. Donc, il y a plusieurs personnages en fait qui ont été représentés, qui sont en interaction. Dans un des cas, il s'agit d'un cochon sauvage et dans l'autre d'un bovidé, accompagné de toute une petite série de personnages. Qui sont partiellement humains d'après leur forme, mais qui ont également des caractéristiques animales, par exemple des becs d'oiseaux. Ils sont reliés, dans le cas du bovidé, à l'animal par de longues lignes qui pourraient être des lances. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que non seulement on a vraiment les représentations figuratives les plus anciennes de la planète, mais aussi des histoires, en fait, qui ont été représentées sur les parois et des histoires qui sont peut-être, sans doute liées à la chasse, à l'environnement, mais qui montrent aussi qu'il y avait la conception d'êtres magiques, de choses peut-être invisibles, qu'il y avait vraiment toute une pensée métaphysique, en fait, qui était déjà présente au sein de ces groupes préhistoriques.
Je reviens dans quelques instants sur cet aspect narratif, mais en effet, ce que vous dites sur ces formes anthropomorphes, ces térianthropes, on appelle ça, voilà, ces personnages mi-humains, mi-animal. Eric Robert, c'est nouveau, enfin, ça c'est étonnant, parce que c'est pas du tout présent en Europe à cette époque, au Paléolithique. On en a, mais beaucoup plus tard.
Alors, on en a quand même au Paléolithique, mais pas du tout dans la composition, dans ces associations qu'on va retrouver en Indonésie. Des personnages, des sortes de personnages qui mélangent des caractères humains et animaux. On a notamment à l'époque, on les a appelés parfois sorciers dans plusieurs sites. Hein, vous en avez, par exemple, en France, dans la grotte des Trois Frères, dans les Pyrénées, ou dans celle de Gabillou, en Dordogne. Vous avez ces personnages qui vont associer des caractères, une sorte de posture un peu humaine, et puis des éléments qu'on va emprunter, par exemple, à un renne, à une chouette, à un lion. Donc, on va composer comme ça un peu une figure, mais ce sont des figures qui sont rares et qui sont pas dans une forme d'interaction directe avec d'autres représentations autour. Il n'y a pas cette hypothèse de scène, de construction narrative telle qu'elles apparaissent en Indonésie. Et ça qui était un des aspects effectivement assez étonnants de ces découvertes de ces dernières années. Alors, scène de chasse, je pense qu'il faut rester très très prudent parce qu'on ne sait pas forcément exactement ce que ça peut représenter, mais il y a manifestement effectivement une connexion et une composition, y compris de ces petites grappes de personnages autour d'animaux. Et ça, en effet, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on va voir éventuellement en termes de composition en Europe dans des contextes beaucoup plus tardifs, plutôt néolithiques, donc il y a quelques milliers d'années. Donc là, il y a pour le coup, ces compositions, c'est une vraie singularité de l'art pariétal de Sulawesi par rapport à ce qu'on va connaître pendant plus de 25 000 ans dans les sites d'Europe de l'Ouest.
Autre particularité, on évoquait cette présence de la faune locale, des cochons, des bovins. Du côté de Sumatra, Hermine Offlat, on a aussi découvert des représentations de feuilles de palmier, par exemple, alors qu'en Europe, on a peu de représentations végétales.
Oui, ça c'est vraiment intéressant. Donc on en parle pas tant que ça encore, je pense que peut-être ça va venir. Mais moi j'ai pas mal travaillé sur le rapport entre les humains et le végétal, en particulier l'utilisation de plantes de la forêt tropicale aux Philippines. Et en fait, oui, c'est vraiment remarquable parce qu'en Indonésie, on a effectivement des feuilles de palmier probablement qui sont représentées, donc avec le pétiole, clairement les folioles qui sont présents. Et ça, ce sont notamment les travaux de Ruli Fauci sur l'île de Sumatra, donc un chercheur indonésien, qui l'ont bien documenté.
Alors, Eric Robert, la question, pourquoi l'art figuratif a-t-il émergé? Pourquoi les espèces humaines ont-elles commencé à laisser des traces dans leur environnement? Ça reste, et ça restera malheureusement pour toujours, un domaine spéculatif.
Ah oui, ça c'est la question clé, celle qui revient à chaque fois, celle qu'on nous pose quand on fait des conférences, au moment des expositions, le fameux pourquoi. Et c'est vrai que c'est une énigme parce qu'on n'aura jamais les moyens d'aller interroger. Ces peintures, elles nous parlent et à la fois, elles sont une énigme totale parce qu'elles sont le produit de cultures, d'environnement, d'états d'esprit qui nous sont vraiment étrangers et quelque part perdus à jamais de façon littérale. On n'en a que ces indices qu'on essaie de décrypter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement, il y a un moment donné, il y a une volonté d'aller laisser une trace. Il y avait peut-être des peintures, déjà des formes de représentation, des formes artistiques, on pourrait qualifier comme ça, qui n'ont pas laissé de traces. Là, il y a une volonté manifestement de laisser justement une sorte d'empreinte, laisser un témoignage. Et je pense qu'une des clés qui permet d'en comprendre peut-être une des composantes, parce que il y a très certainement surtout une multitude de raisons et une multitude de significations. La grave erreur, en fait, que des fois, trop souvent, on commet, c'est de chercher à apporter une explication qui viendrait tout raconter et tout traduire. Or non, il peut y avoir mille raisons qui peuvent pousser et qui peuvent expliquer le contenu de ces images et parfois même plusieurs raisons autour du contenu d'une seule et même image. Mais je pense que là, il y a un des facteurs qui est important, c'est peut-être le besoin d'aller, effectivement, ce que disait Hermine tout à l'heure, l'aspect d'aller raconter quelque chose, de l'ordre du discours, de la composition, du récit. Alors, ça peut être un récit mythologique, ça peut être un récit du quotidien, un récit d'événements, un élément de mémoire, un récit de parcours, peut-être de migration, une volonté de laisser une empreinte dans le cadre d'une circulation humaine sur des très, très longues distances. Il y a plein de... On peut imaginer beaucoup de choses, mais très certainement, il y a une raison qui peut se pousser à cela. Et la date obtenue, en fait, aujourd'hui sur l'île de Mouna, elle pose la question parce qu'elle renvoie justement à cette grande phase de sortie d'Afrique. Et est-ce qu'il y a une interaction, finalement, maintenant qu'on s'est rapproché, puisqu'elles sont autour de 70 000 ans? Là, on est à 67 800, donc c'est rien, c'est quasiment contemporain. Est-ce qu'il y a quelque chose, au moment de cette sortie des populations d'Afrique, qui pousse, on va dire, qui motive ou qui conduit à la production, à cette expression pérenne sur les parois qui va quelque part ensuite, alors on a encore des trous dans la chronologie jusqu'à 40 000 ans, mais après, partout où les humains seront installés, seront présents, ils laisseront des traces. Et c'est pour ça qu'on a des millions de sites d'art rupestre sur la planète. C'est dès que ces groupes humains commencent à produire ces images, à ce qu'elles leur parlent, ils ne s'arrêtent quasiment plus de les faire. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire de notre humanité.
Éric Robert, il y a aussi l'hypothèse que côté Europe, ce serait le contact avec Néandertal qui aurait peut-être été à l'origine de l'arche Homo sapiens.
Effectivement, c'est la grande question. Est-ce que la rencontre d'autres humanités, et finalement peut-être qu'on pourrait imaginer la même chose pour ces peintures anciennes, est-ce que les groupes humains qui ont réalisé ces peintures à Sulawesi, sur leur parcours, auraient pu croiser d'autres de ces groupes humains? Pour l'Europe, on peut se poser la question, c'est une hypothèse. Il y a quand même un petit quelque chose qui semble pas forcément coller tout à fait, mais ça c'est encore, je pense que ça fait partie des vraies investigations qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est que les premières peintures en Europe ou les premières productions figuratives, on va dire ça comme ça, objets ou sur les parois grottes, c'est donc à peu près entre 37 000 et 40 000 ans pour l'instant d'après les dates que l'on a. Et donc c'est pas immédiatement quand Homo sapiens arrive en Europe, c'est quelques milliers d'années après. Alors, à l'échelle des temps et à l'échelle de nos capacités de mesure, c'est pas grand-chose. On va dire que c'est quasiment contemporain. On le présente souvent comme ça. Néanmoins, il semble qu'il y a un petit laps de temps. Alors, est-ce que c'est un laps de temps nécessaire? Est-ce que c'est qu'on n'ait pas été capable d'aller au-delà de cette limite? Ou est-ce que la connexion avec Néandertal, elle n'est pas le facteur explicatif de ça? Et puis surtout, maintenant qu'on a ces dates beaucoup plus anciennes, y a une tradition, un historique plus ancien qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et donc, quelque part, quelle est la racine des œuvres que l'on connaît en Europe? Est-ce qu'elle prend aussi un peu sa source dans ces œuvres en Asie avec des phénomènes d'aller et retour? Là, c'est, je pense qu'il y a, en fait, ça ouvre beaucoup de nouvelles questions, ces découvertes, et je pense que ça doit ouvrir un peu les schémas qu'on pouvait avoir en tête jusqu'à présent, schémas d'explication, d'interprétation que l'on connaissait jusque-là.
Alors, bon, on peut pour le moment ne rester que dans l'expectative, mais en revanche, ce qu'on sait faire parler, ce sont les roches. Quelles techniques permettent de dater les peintures préhistoriques? Restez avec nous, on y arrive.
Shake your head!
Sonny Knight and the Lakers, Cavemen, hors direct sur France Culture, car nous parlons d'art pariétal en compagnie de nos deux invités du jour. Hermine Hoffler, chargée de recherche à l'IRD, Eric Robert, archéologue, maître de conférence au MNHN. En janvier 2026, une publication dans Nature détaille la découverte des plus anciennes peintures attribuées à Homo sapiens, des mains négatives qui datent d'au moins 67 800 ans, situées sur l'île de Sulawesi, en Indonésie. On vient de décrire ces mains, maintenant parlons des techniques, des chercheurs, on a parlé des artistes, place maintenant à la recherche scientifique. Hermine Hoffler, de façon générale, on peut classer les méthodes en deux grandes catégories. D'un côté, la datation directe, de l'autre, la datation indirecte. Et pour la datation directe, on a le fameux carbone 14.
Oui, tout à fait. Donc le carbone 14, alors pour cette méthode, on a besoin de quelque chose d'organique à dater. Donc dans le cas des peintures pariétales, ça peut être par exemple des dessins réalisés au charbon. Là, on va pouvoir directement dater les pigments. Et en fait, les êtres vivants, nous aussi, on respire du carbone. Et en fait, au moment de notre mort, ce carbone, le carbone 14, va se dégrader en carbone 12, c'est-à-dire que des électrons vont être perdus de manière régulière. Et donc, en mesurant la quantité de carbone 12 et de carbone 14, en l'occurrence, par exemple, sur du charbon de bois ou par exemple à l'intérieur d'ossements humains ou d'animaux, on va pouvoir connaître l'âge de l'artefact, de l'individu ou des tracés. Alors ici, dans le cadre des découvertes à Sulawesi, il ne s'agit pas de carbone, donc ce n'est pas cette technique qui a été employée, mais c'est en fait la calcite qui va recouvrir les peintures qui nous permet de savoir avant quel moment les peintures ont été réalisées.
Et en effet, pas de carbone 14, mais quand même, cette technique, c'est quand même l'outil majeur de l'archéologie, et c'est l'exemple qui est très utilisé de datation directe.
Si nous parlons des techniques modernes, nous pouvons aussi invoquer un des derniers procédés, et peut-être le plus spectaculaire. C'est au moment des études atomiques, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que des laboratoires de Chicago ont reconnu la radioactivité du carbone 14 qui était incorporé dans des matières organiques, dans des végétaux. Et à la suite des calculs et des observations, des examens de laboratoire, on s'est aperçu qu'en chiffrant très exactement, on pouvait arriver à une datation. Par exemple, si dans un palais, on fait examiner la poutraison d'une charpente, cet examen peut donner une date assez précise qui indique le moment où le bois a été coupé. Il va de soi que c'est extrêmement important parce que dans des questions très controversées de chronologie, comme celle du Hammurabi par exemple, on arrivera peut-être à une précision. Sans doute, il y a encore une marge d'incertitude de 200 ans. Mais enfin, quand on parle par millénaire, 200 ans ne compte plus beaucoup. On peut signaler aussi qu'à propos des manuscrits de la Mer Morte, on a soumis les tissus qui enveloppaient certains des rouleaux au même examen, et que cet examen a abouti, dans ce dernier cas, à une date qui a pu être fixée dans le 1er siècle après Jésus-Christ. Or, il se confirme, l'archéologie vient de le confirmer, la prospection dans les environs de la première grotte de la découverte aboutit précisément à cette même date du 1er siècle après Jésus-Christ. Par conséquent, là, il y a un concours vraiment inattendu et inespéré des techniques modernes.
Voilà un extrait de l'émission Tribune de Paris diffusée sur la RDF en 1953. Voilà, alors le carbone 14 a été particulièrement intéressant. Il a été utilisé pour dater les peintures de la grotte de Chauvet. Mais Eric Robert, quel est son principal défaut ?
Alors, le carbone 14, effectivement, c'est une méthode qui est précieuse, connue depuis les années 50 et surtout utilisée sur les dessins au charbon depuis les années 90. Alors, je dirais que le principal défaut, je ne sais pas si c'est le défaut de la méthode, c'est surtout qu'on a peu de dessins au charbon. Donc, en fait, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités de datation directe et c'est un vrai écueil quand on veut essayer justement de savoir, quand on va découvrir un site, une grotte, de nouvelles peintures, à quelle période elles remontent. Ben, souvent, on est limité parce que elles vont être faites, justement, ces peintures, dans d'autres matériaux, de l'oxyde de fer, l'oxyde de manganèse, qu'on ne peut pas dater directement. Donc ça, je dirais que c'est la première limite. L'autre limite, bah, il est lié au principe même de la méthode, puisque il y a effectivement donc une désagrégation régulière, ce qui permet de remonter dans le temps jusqu'à à peu près, alors 40, maintenant 45 000, voire 50 000 ans, mais c'est vraiment un plafond et c'est un plafond quasi indépassable. Donc tout ce qui est au-delà en termes de datation, on ne peut pas le dater. On ne peut pas y accéder directement et donc on est limité. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut se tourner vers d'autres possibilités ou d'autres méthodes. Et c'est là, entre autres, qui est intervenu, eh bien, les possibilités offertes par la méthode de l'uranium-thorium, qui, elle, n'est pas une méthode de datation directe. C'est-à-dire, on ne va pas dater directement l'œuvre en elle-même, mais on va dater quelque chose qui recouvre cette œuvre. Et en l'occurrence, dans le cas donc des peintures qui sont concernées ici, ou dans le cas où ça a été testé, eh bien, ce sont des dépôts, notamment des dépôts de calcite, d'où l'importance d'être dans un contexte en grotte, ce que j'évoquais tout à l'heure.
En effet, cette datation uranium-thorium qui est utilisée dans cette étude, hein, datation indirecte, on parle, Hermine Hoffler, de parois de grottes indonésiennes qui sont souvent recouvertes, de caves pop-corn, ou de pop-corn cavernes. Ça vous dit rien du tout, ou vous, Éric Robert, en tout cas sur le fait que ce sont aussi des parois qui permettent en effet de dater ces accrétions de calcite?
Alors c'est vrai que ces parois, et notamment dans le contexte de Sulawesi, en fait c'est des dépôts de calcite, ces sortes de concrétions qui se forment justement liées avec la circulation de l'eau au sein des roches, donc des roches calcaires qui vont se charger en calcium, qui vont petit à petit avoir cette espèce de dépôt de précipité en quelque sorte, qui vient se former, s'ajouter par-dessus les peintures. Et ce qui est précieux, c'est que manifestement, sous la Woody, ces dépôts sont relativement épais parce que cette méthode de l'uranium-thorium, elle est très utile. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est à peu près la même méthode, le même principe que le carbone 14. Il y a ainsi un rapport entre l'uranium 238, 234 et le thorium 230, sans rentrer dans tous les détails, avec là aussi, une disparition assez régulière, mais qui permet de remonter à des échelles de temps quasiment jusqu'à 500 000 ans. Donc, on est dans des contextes très confortables. En revanche, pour que ça marche très bien, il faut qu'on soit dans ce qu'on appelle un milieu qui soit bien clos, bien fermé. Et c'est le cas, par exemple, quand on va prélever dans une stalactite ou une stalagmite. On fait carrément une sorte de carotte, on va perforer à l'intérieur, on va faire un prélèvement. Là, le milieu est clos, la méthode va marcher très bien. Sur des dépôts formés sur des parois, ben parfois, c'est plus compliqué parce que les dépôts sont très fins. Et il peut y avoir des phénomènes un peu complexes de lessivage. Donc, c'est une méthode qui a été appliquée dans différents contextes, notamment en Europe, et elle donne lieu à pas mal de discussions parce qu'il peut y avoir, eh bien, des problèmes, des lessivages qui entraînent des erreurs, voire des sortes de datations artificiellement vieillies, parfois à coup de dizaines de milliers d'années. L'avantage de Sulawesi, c'est que ces dépôts, cette espèce de pop-corn, justement, il est relativement épais. Et donc, l'équipe de Maxime Aubert, elle a développé une technique qui permet d'aller faire des sortes de micro-prélèvements successifs. C'est-à-dire qu'on a vraiment une sorte de stratigraphie du prélèvement, donc avec des séries de dates qui se succèdent petit à petit en s'enfonçant dans cette mini-couche qui va recouvrir le pigment jusqu'à identifier la position des pigments. Et il y a une cohérence entre ces dates. Et donc, la multiplication à la fois des datations qui sont effectuées et la cohérence faite à l'intérieur de ces prélèvements sur des dépôts qui sont un peu plus épais que ce qu'on a, par exemple, dans des sites en Europe, ben, ça donne une plus grande efficacité et ça permet justement d'obtenir toutes ces dates bien plus importantes sur des peintures qui sont rouges, noires, mais qu'on ne peut pas dater directement.
Voilà, en effet, en datant la calcite, on obtient un âge minimum pour la peinture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit des œuvres datées de au moins 67 800 ans. Hermine Hoffler, en attendant, il n'y a pas de doute que ce sont bien les peintures les plus anciennes datées. Ou est-ce qu'il y a toujours une sorte de question qui plane sur la datation autour de ces mains négatives?
Je trouve que l'étude est solide, en tout cas, certainement, oui.
Puisqu'on vient d'évoquer, en effet, les critiques autour de cette méthode, alors je peux vers vous également.
Oui, Moi, je suis assez convaincue, honnêtement, par cette datation et par les travaux de Maxime Aubert, Addis Octaviana et leur équipe.
Éric Robert, rapidement.
Oui, je veux bien juste ajouter une petite chose parce que, effectivement, en fait, ce qui pose problème des fois avec cette méthode, je disais, c'est les lessivages qui peuvent fausser les prélèvements. Et donc, par exemple, dans des sites européens, parce qu'il y a, c'est une méthode qui a été utilisée depuis le début des années 2000. Et à Bornéo, par exemple, au début des années 2000, on avait testé cette méthode en la croisant avec celle du carbone 14. Parce que ces petits dépôts de calcite, il y a aussi du carbone. Donc, on peut aussi appliquer la méthode du carbone 14. Et donc, des collègues, des dateurs ont croisé les deux méthodes et parfois, ils obtenaient les mêmes dates et parfois, il y avait 20 000 ans d'écart entre les dates. 20 000 ans plus vieilles avec le méthode d'uranium-thorium. Donc, la remarque, c'était de dire, attention, il peut y avoir un risque. Et un bon outil, c'est de croiser, d'appliquer les deux méthodes. Et c'est ce qui s'est fait d'ailleurs en Europe, ce qui marche d'ailleurs assez bien, ce qui permet en tout cas d'aller contrôler l'efficacité. Alors, l'équipe de Maxime Aubert pratique pas ce croisement des méthodes. En revanche, donc leur technique de prélèvement, on va dire, successive, offre, je pense, une assez bonne réponse à ce risque, un assez bon contrôle, on va dire, au niveau méthodologique. Et puis, c'est aussi la succession et l'accumulation, j'allais dire, des dates et leur cohérence qui donnent du poids. C'est qu'on n'est pas face à une date isolée. Et d'ailleurs, sur l'île de Mouna, il y a une main qui a été datée à au moins 67 800 ans. Et à côté, on en a une autre assez effacée avec une datation qui remonte à au moins 60 000 ans. Donc, ça montre aussi quelque part cette cohérence. Je dirais que s'il y avait un jour un test croisant la méthode du carbone 14 avec l'uranium-thorium sur leur prélèvement, ça permettrait définitivement de lever le doute parce qu'on aurait certainement une date à au-delà de 45 000 ans avec le C14. Et dans ce cas-là, bah voilà, on serait définitivement rassuré. Mais je pense que, comme Hermine, il y a quand même beaucoup d'éléments qui rendent très solide la proposition qui est faite.
Pas de doute, en effet, sur ces résultats. L'idéal, comme vous dites, c'est de pouvoir croiser les deux approches, comme chaque technique ont leurs défauts. Alors maintenant, en quoi ces peintures sont-elles des indices sur les trajectoires migratoires des premières populations qui ont peuplé l'Océanie? On en parle tout de suite.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture, avec Éric Robert et Hermine Hoffler, nous parlons d'art pariétal en Sulawesi. On vient de parler d'utilisation d'une technique assez récente, la datation uranium-thorium sur les dépôts de calcite qui recouvrent les images. Et ce qui a permis de dater ces productions à au moins 67 800 ans par datation indirecte. Maintenant parlons de cette route migratoire des premiers humains modernes de l'Océanie. Hermine Hoffler, que nous enseignent justement ces témoignages picturaux sur la route empruntée par Homo sapiens à cette époque?
Oui, donc c'est vraiment une découverte très intéressante parce que en fait, il y a deux théories de route possibles pour la colonisation par notre espèce de l'Australie, mais aussi de la Papouasie. Ce qu'on appelle en fait Saoul dans notre jargon, c'est-à-dire que pendant les périodes glaciaires, le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Donc l'eau au niveau global était vraiment mobilisée sous forme de calottes glaciaires, de glaciers sur la Terre. Et ça permettait d'aller par exemple de Paris à Londres à pied, mais aussi de la Papouasie jusqu'en Australie.
Saoul, c'était un super continent.
Exactement, exactement, tout à fait. Et donc on sait depuis maintenant quand même pas mal de temps qu'il y a plusieurs sites en Australie qui sont datés de 50 000 ans. Et puis, un peu plus récemment, le site de Majet Bébé a été publié avec une date justement aux alentours de 67 000 ans, plutôt 65 000 ans. Et donc, ça suggérerait un peuplement beaucoup plus ancien de l'Australie. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Les découvertes, en tout cas aujourd'hui à Sulawesi, montrent qu'il y avait une présence en Asie du Sud-Est insulaire déjà il y a 67 000 ans, peut-être par Homo sapiens. Et vous avez parlé des routes migratoires, donc il y a deux routes qui ont été proposées par les chercheurs. La première, c'est la route du Sud, donc qui va passer par l'île de Java, par Timor, et puis avec des populations qui vont arriver directement en Australie. Et puis, il y a la route du Nord, où là, les Homo sapiens seraient plutôt passés par Bornéo, ensuite Sulawesi, puis la Papouasie, et puis seraient descendus depuis la Papouasie jusqu'en Australie. Et en fait, la découverte d'une présence potentielle d'Homo sapiens à Sulawesi il y a 67 000 ans ou plus, montre que cette route du Nord tient sans doute la route, en tout cas pour peut-être une vague de migration plus ancienne vers Saoul qui passerait par la Papouasie. Donc je rappelle juste deux sites en Papouasie même qui datent de 50 000 ans. Le premier, c'est Mololo, sur l'île de Wagyo dans la Raja Ampat, tout à fait à l'ouest de la Papouasie. Et le second, c'est l'Ivane Valley, là en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est également à 2000 mètres d'altitude.
Tout ça aussi, Hermine Hoffler, ça témoigne également d'une traversée maritime au nord, entre Bornéo et Sulawesi.
Oui, absolument.
Et donc de compétences en navigation.
Oui, c'est vraiment incroyable en fait, parce que ça nécessite, donc ça a été modélisé, hein, ça nécessiterait de passer au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs sur la mer. Donc ça nécessite des embarcations, probablement des voiles, des cordes, et puis une population suffisamment importante en fait pour vraiment coloniser ce supercontinent Saoul. Donc pas seulement quelques personnes qui vont se perdre, mais vraiment des familles, des hommes, des femmes, des enfants.
Ça pose encore une fois cette question fondamentale, la raison d'où vient cette production d'images organisée à l'échelle de l'humanité.
Vous avez fait, je crois, une communication, ou plutôt vous devez faire une communication au cours des travaux de ce congrès, concernant certaines peintures rupestres, notamment celle de l'Afrique australe en ce qui vous concerne, parce que vous avez fait là-bas des recherches personnelles, et d'autre part en ce qui concerne celle du Tassili des Agers, suivant les recherches du colonel Ronan. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot ?
Ceci nous mène à l'autre extrémité, si je peux dire, du développement de l'humanité. Entre les deux, il y a eu certainement une très grande influence de l'Afrique sur l'Europe à l'âge de la très ancienne humanité tailleuse de coups de poing et de haches à main. Mais ensuite, dans la période ultime de l'âge de la pierre taillée et à l'époque néolithique, l'art né dans l'Europe occidentale paraît avoir influencé les populations d'Afrique du Nord et leur avoir donné un thème pour développer leurs propres sentiments et leurs propres manifestations artistiques sur les rochers dont vous venez de parler, du Tassili et autres lieux du nord de l'Afrique, où on voit apparaître des civilisations pastorales à troupeaux de bœufs. Et cet art ouest européen paraît s'être développé jusqu'à l'extrémité du continent sud de l'Afrique par l'art dit Bushman, mais qui en réalité, quoi qu'il soit Bushman pour une partie, est aussi dû à la collaboration d'une foule d'autres tribus de diverses couleurs certainement.
Voilà un extrait de l'émission Union Française, magazine de la France d'outre-mer sur la RDF en 1952. Éric Robert, pour un peu contredire cette archive, il y a aussi l'hypothèse que ces populations sorties d'Afrique peignaient déjà, mais peut-être sur des matériaux non durables, et donc qu'on ne retrouve pas leur création.
Effectivement, ça pourrait être une des explications, une hypothèse qui est cette histoire. En tout cas, les dates à Sulawesi, vraiment, aujourd'hui, nous questionnent sur cette émergence. On a des témoignages, notamment en Afrique du Sud, autour de 80 000 ans, de motifs géométriques, voilà, de sortes de chevrons qui se croient sur un fragment d'ocre ou sur un petit morceau de plaquette calcaire. Mais pour l'instant, on n'a pas autre chose. Et ça pose vraiment la question, est-ce qu'il pourrait y avoir finalement, et on l'a pas trouvé ou on l'a pas cherché parce qu'on n'imaginait pas que c'était possible, et il faudrait, je pense, notamment viser des contextes souterrains, des contextes en grotte idéalement pour pouvoir les identifier, ou bien est-ce qu'il y avait aussi un art de plein air, comme il peut exister ailleurs, et qui a disparu à cause de problèmes de conservation ? C'est une vraie question, mais en tout cas, aujourd'hui, est-ce que cette émergence, elle est liée à ce mécanisme de sortie d'Afrique, ou est-ce qu'il est même encore plus ancien, et déjà inscrit dans ces territoires africains ? C'est une vraie question, parce que c'est, j'allais dire, presque pas normal qu'on n'ait pas de sites anciens connus sur l'Afrique. On en a autour notamment de assez bien datés, de 10-12 000 ans, notamment à travers les recherches que fait notre collègue Camille Bourdier au Matobo, au Zimbabwe, mais on a une difficulté vraiment à pouvoir identifier ces sites, et il y a des contextes, des problèmes de conservation qui peuvent justifier peut-être cette absence de connaissances, peut-être aussi une carence encore dans la prospection au bon endroit pour découvrir peut-être de futurs sites clés dans ces régions, notamment certaines régions africaines.
Voilà, est-ce que le terreau est plus ancien, déjà présent en Afrique, se répand sous l'impulsion des différentes vagues de sortie d'Afrique il y a 70 000 ans, comme on l'a dit, c'est une question de recherche en cours très actuelle. Merci, merci en tout cas à vous deux. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais merci Hermine Hoffler, merci Éric Robert. Et puis tout de suite, on parle de toute autre chose, on vous parle de la diversité, de la biodiversité, et c'est la chronique avec science. Merci.
Quelle forme la vie prend-elle sur Terre ? On cherche la vie ailleurs depuis des décennies, hors de notre système solaire. On traque dans l'atmosphère d'exoplanètes de l'eau liquide, ou mieux encore, des signatures chimiques qui révéleraient des traces de vie telles qu'on la connaît. Cette vie telle qu'on la connaît, c'est la formulation d'usage pour dire qu'on ne connaît peut-être que notre forme de vie et sous-entendre qu'il pourrait en exister d'autres. Mais savons-nous réellement décrire la forme que prend la vie sur notre propre planète ? Guillaume Desrats est paléontologue et maître de conférences à l'Université de Toulouse.
On est parti d'un paradoxe qui est actuellement que on va rechercher de la vie dans l'univers en se posant des questions plutôt d'ordre chimique ou fonctionnel ou physique, etc. Et effectivement, la propriété qui était la plus tangible n'avait pas été mesurée jusqu'à présent, c'est-à-dire la forme, la géométrie. Alors on sait mesurer des formes pour chaque organisme en particulier, les caractériser avec différents paramètres, etc. Mais à grande échelle, il n'y avait pas moyen de le faire encore jusqu'à présent. On considère par exemple qu'on va avoir des organismes en forme de petites boules comme les bactéries, on va avoir des organismes très branchus comme les arbres, on peut avoir des organismes qui vont être très filamenteux comme des filaments de bactéries ou des formes un peu de type serpent ou des choses comme ça. Donc il y a une grande variabilité. Et dans toute cette variabilité, il y a plein de variations possibles entre tout ça en fait. Et l'idée, c'était de voir un petit peu quelle est toute cette variation possible à l'échelle de la Terre.
Des bactéries aux champignons, en passant par les coraux, les arbres, les escargots, les oiseaux et jusqu'à nous, humains, quelle est la géométrie de la vie ? Et puis, seconde question et pas des moindres, est-ce que ce que l'on voit sur Terre est particulièrement diversifié dans le champ des possibles, dans ce qui est théoriquement possible de créer avec nos lois physiques, ou bien notre catalogue du vivant est-il assez limité ? C'est le cœur de cette nouvelle étude parue dans Science Advances, et pour comparer des formes a priori si différentes, les auteurs ont eu recours à une analyse fractale. C'est une manière de mesurer comment une forme occupe l'espace. Très concrètement, il y a deux étapes. D'abord, on isole la morphologie globale de l'être vivant, et puis ensuite, on place cette charpente à plat sur une grille et on compte le nombre de pixels que la forme remplit. D'abord de loin, puis on s'approche, on zoome pour avoir plus de détails et à nouveau on agrandit pour finalement obtenir toute la variabilité morphologique. Premier résultat, il y a trois formes extrêmes dans le vivant terrestre. Des formes plutôt filamenteuses, des formes plutôt compactes comme des boules et des formes plutôt ramifiées et branchues. Mais, et c'est en réalité le plus intéressant, les formes de vie sur Terre ne représentent qu'une infime proportion de ce qui est théoriquement possible de faire.
Donc en comparant le possible et l'actuel, ça c'est une technique qui est assez commune en sciences de l'évolution généralement, il est possible de cerner un petit peu les contraintes qui font que certaines formes existent et d'autres pas. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans cette comparaison, on avait très peu de formes hétérogènes ou très complexes. Alors le chiffre, il est très approximatif, mais on serait dans une fourchette de l'ordre de moins de 1% de réalisés par rapport au champ des possibles. Alors ça amène à un grand débat en fait en évolution qui est toujours de savoir ce qui est de l'ordre du hasard ou de la nécessité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des contraintes qui vont borner un peu ce qui est possible. Et ce qui nous est paru intéressant, c'est que quand on compare un petit peu toutes les formes qu'il y a sur Terre en fonction de leur taille, on a vu qu'il y avait une sorte de trajectoire dans le sens où, à petite échelle, les organismes ont plutôt des formes de boules et plus ils vont grandir et plus on va avoir des formes branchues, compliquées, etc.
Il existe une sorte de trajectoire géométrique. Et donc, allons plus loin, si les principes de l'évolution sont universels, on peut imaginer que la vie ailleurs pourrait, elle aussi, suivre des chemins similaires. Ça ne veut pas dire que les extraterrestres, entre guillemets, auraient deux bras et deux jambes, seulement que l'architecture générale de la vie suivrait une géométrie semblable. Les analyses ont été réalisées en deux dimensions, à partir de silhouettes des organismes et sur environ un millier d'espèces. Or, bien sûr, nous sommes en 3D et sur Terre, il existe plusieurs millions d'espèces. La suite, ce sera d'ajouter une dimension et d'élargir l'échantillon. L'autre perspective est de regarder le vivant du passé, d'appliquer la même méthode aux fossiles pour suivre l'évolution des formes à travers les grandes transitions de l'histoire de la vie.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et comme chaque mercredi, il est l'heure de retrouver Le Fil Science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Et si notre plus vieille histoire d'amour était une histoire d'alcool? Des chimpanzés ivres jusqu'aux bières de Sumer, découvrez pourquoi certains d'entre nous paient encore le prix de cette longue romance. Et oui, nos ancêtres, bien avant Sapiens, mangeaient des fruits dans la forêt et buvaient de la sève. Or, les fruits bien mûrs ou la sève bien sucrée peuvent contenir de l'alcool, de l'éthanol. Avec l'aide de micro-organismes, de levures, le sucre devient naturellement de l'alcool. Mais de là à imaginer nos ancêtres tous saouls, il y a un pas. C'est en observant certains chimpanzés qui ont un régime alimentaire pas très éloigné de celui de nos ancêtres que des primatologues ont mesuré la consommation d'alcool possible en nature. Les chimpanzés de la forêt Thaï, en Côte d'Ivoire, mangent beaucoup de fruits mûrs, une sorte de figuier. Ils consommeraient l'équivalent d'une bière et demie par jour. Des primatologues ont même constaté des regroupements de chimpanzés en état d'ébriété. Ils utilisent des sortes d'éponges en feuilles et collectent la sève fermentée d'un type de palmier. Digérer l'alcool a dû être un avantage au cours de l'évolution. L'éthanol est en effet très riche en calories et la concentration de cet alcool naturel est assez faible en général. C'est sur cette base biologique naturelle qu'il y a plusieurs milliers d'années, les humains ont inventé une nouvelle fermentation encore plus efficace, celle qui produit la bière ou le vin. Mais alors comment expliquer que certains humains ne digèrent pas l'alcool ? Digérer l'alcool se fait en deux étapes. D'abord, notre organisme transforme l'éthanol en acétaldéhyde, puis cet acétaldéhyde est transformé en acétate. Or, l'acétaldéhyde est toxique en grande quantité. S'il s'accumule, il entraîne la tachycardie, votre cœur bat la chamade, des vomissements et le célèbre alcohol flushing, la rougeur due à l'alcool. C'est ce qui arrive aux personnes qui sont intolérantes à l'alcool. Pour certains humains, la première étape de la digestion est trop rapide. La seconde étape n'a pas le temps de suivre. Pour d'autres personnes, la première étape fonctionne bien, mais c'est la seconde qui est à la peine. Dans les deux cas, le fameux acétaldéhyde s'accumule. Et les causes sont génétiques. Ce sont des mutations, soit à la première étape, soit à la seconde. On le sait peu en Europe, mais ces mutations sont très fréquentes dans certaines zones du monde. Par exemple, en Chine et au Japon, jusqu'à 50% des gens sont intolérants à l'alcool. Ces mutations qui entraînent l'accumulation dans le sang de l'acétaldéhyde, le fameux résidu toxique à haute dose, permettraient de protéger contre certains pathogènes. Donc, dans certains endroits du monde, ne pas digérer l'alcool aurait été avantageux. Bref. Nous ne sommes donc pas tous égaux devant l'éthanol, et ce malgré des millions d'années de pratique. Et si vous voulez en boire, faites-le avec modération.
Merci Evelyne Heyer pour ce Fil Science, et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Louise Ormond-Séji. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Élise Le. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.